France Culture, les matins d'été, Nicolas Martin.
Et à 8h31, c'est l'heure de la revue de presse internationale d'Ezekiel Fernandez. Bonjour Ezekiel.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Quand terrorisme rime avec grand banditisme.
Le grand pillage de Daesh, c'est le titre d'une enquête à lire dans la nouvelle livraison de l'Obs. Alors qu'hier tombait la nouvelle de l'assassinat en Syrie de Khaled al-Assad, l'ancien chef des antiquités de Palmyre, décapité en public par des djihadistes de l'État islamique. Nous allons y revenir. Nathalie Funès et Bernard Géniès font le point sur la contrebande d'antiquités devenue l'une des principales sources de financement de Daesh. On le savait déjà, le phénomène remonte à la première guerre du Golfe en 1991. Mais aujourd'hui, en Irak, en Syrie, le pillage atteint des sommets inégalés selon un spécialiste. Il suffit pour s'en convaincre de regarder, dit-il, les images des sites archéologiques prises par satellite. Partout, des trous béants témoignent de l'ampleur des vols. Impossible de mesurer l'ampleur justement du trafic. L'UNESCO l'estime en tout cas à plusieurs centaines de millions d'euros. Daesh empoche une bonne partie du pactole, mais pas seulement. En fait, selon Mamoun Abdulkarim, directeur des antiquités et musées de Syrie, cités par l'Obs, ce sont les bandes mafieuses venues du Liban et de la Turquie qui sont responsables de la plupart des pillages. Daesh donne son autorisation moyennant une taxe de 20 à 50% sur la valeur estimée des objets. Et puis, pour qu'un tel commerce fleurisse, il faut des acheteurs. Ils se trouvent dans le monde entier et se montrent pour le moins peu regardant sur l'origine des objets soumis à leur convoitise. Le nom de Mahmoud Abdulkarim nous ramène à la disparition de Khaled al-Assad, que certains surnommaient « Monsieur Palmyre », précise l'International New York Times. Décapité avant-hier lors d'une nouvelle mise en scène barbare, il avait 82 ans, d'autres sources, citées notamment par le Washington Post, affirment que l'ancien chef des antiquités de Palmyre, détenu depuis un mois par les djihadistes, aurait été tué parce qu'il refusait de divulguer aux djihadistes l'emplacement de trésors cachés. Il s'est refusé, quoi qu'il en soit, à quitter la ville et le site auquel il avait consacré toute sa vie quand Palmyre est tombé aux mains de l'État islamique en mai dernier, en dépit des prières de sa famille et de ses amis. Pour lui, c'était impossible. Il aurait eu l'impression de trahir ses ancêtres, selon Michel Al-Magdissi, ancien directeur des fouilles et recherches archéologiques en Syrie, un ami très proche de Khaled al-Assad, qu'a interrogé le Figaro. Il estime que cet assassinat est une manière odieuse pour les troupes de Daesh de ramener l'actualité sur elle, de réaliser un nouveau coup médiatique. Lui aussi insiste sur la responsabilité de l'UNESCO et des États qui ne font rien ou pas grand-chose pour endiguer le trafic international d'antiquités. Quant au régime de Bachar al-Assad, ajoute-t-il, il se moque complètement du patrimoine. Palmyre a été livré, dit-il, à Daesh pour mieux défendre la Syrie utile, entre guillemets, c'est-à-dire Homs, Damas et la zone côtière.
Tout autre chose ce matin, Ezekiel, avec ces hackers qui tiennent leurs promesses. Ils avaient piraté un site nord-américain de rencontres extra-conjugales.
Vous vous en souvenez, Nicolas, l'affaire avait fait grand bruit le mois dernier lorsque les pirates qui œuvrent sous le nom de The Impact Team avaient révélé avoir fait main basse sur les données personnelles de 37 millions d'utilisateurs à travers le monde du site Ashley Madison, propriété du groupe canadien Avid Life Media. Les noms, coordonnées bancaires et fantasmes sexuels. Les hackers demandaient, rappel libération, la fermeture de deux sites, Ashley Madison, donc, et aussi Establishment, une plateforme de mise en relation entre des jeunes femmes et des hommes, disons, mûrs. Un mois après, ils ont mis leur menace à exécution, la mise en ligne de ces données sur le Darknet, réseau accessible seulement depuis des navigateurs spécialement configurés. Le FBI a confirmé hier qu'il enquêtait sur cet exploit informatique. On y trouve 15 000 adresses mail en .mil ou .gov, c'est-à-dire les extensions de l'armée et du gouvernement américain. Une start-up française de sécurité informatique compte pour notre pays environ 260 000 adresses en .fr et Libération, une dizaine en .gouv.fr, c'est-à-dire la signature de l'administration française. Il faut préciser que s'agissant de rencontres extra-conjugales, les utilisateurs se servent plutôt de leur adresse mail professionnelle. C'est assez logique. Les Échos s'emparent également de cette affaire. En titre, le coup de force de hacker révèle les pratiques d'Ashley Madison. D'un côté, peut-on lire dans les colonnes du quotidien économique une start-up florissante, réalisant plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. De l'autre, une société un peu négligente sur la sécurité de ses données qui se retrouve confrontée aujourd'hui à des révélations gênantes. 90 à 95% des utilisateurs sont en fait des hommes. Le site fourmille de faux profils féminins. Plus grave, les pirates affirment que la société proposait un service payant pour effacer les données des utilisateurs ne souhaitant plus apparaître. Or, les données publiées montrent qu'Ashley Madison conservait une copie des données prétendument supprimées. Le Sun fait son miel de cette affaire. Le contraire eût été étonnant de la part du tabloïd britannique qui laisse entendre que ces données concernent 1 100 000 Britanniques candidats à l'adultère, à qui les hackers s'adressent d'ailleurs non sans humour. Retenez la leçon, réparez vos torts, c'est embarrassant sur le moment, mais vous vous en remettrez, et de les encourager en fait à poursuivre en justice le groupe canadien. Le Sun, qui se fait également un plaisir de publier une carte des villes britanniques où le taux d'adultère est le plus élevé. Il ne s'agirait pas bien sûr de gâcher une information aussi croustillante. So shocking, but so enjoying.